l'UNBA. Donc, pinkwashing et homonationalisme, quels enjeux pour nos mobilisations? Donc, c'est le troisième topo, il y a eu d'autres lundi, dimanche et lundi. On a eu également un atelier hier de présentation de la commission. Et nous nous retrouvons aussi cet après-midi avec l'atelier écrit dans la marge. Donc voilà, je vais passer la parole.
Ok. Bonjour à toutes et à tous. Donc le topo peut paraître un peu universitaire, pinkwashing, homonationalisme. Il y a des gens qui m'ont demandé qu'est-ce que c'était, tout simplement. Et il y en a même qui m'ont dit « je ne suis ni l'un ni l'autre, est-ce que c'est vraiment intéressant ?» Ni homo, ni nationaliste. Bon, nous non plus, on n'est pas nationalistes. Spoiler alerte. Donc, l'homonationalisme, on l'entend à l'oreille, c'est la contradiction de homo et de nationalisme. Et en réalité, c'est la contraction de homonormativité et nationalisme. L'homonormativité, c'est l'idée de la création d'une norme homosexuelle à l'image de la norme hétéro. En quelque sorte, c'est le fait de plaquer la norme hétérosexuelle de la famille traditionnelle dont on vous a parlé lors du topo lundi au couple homo, que ce soit des femmes ou des hommes. Le couple, la répartition des rôles avec un actif, un passif dans tous les sens du terme, la charge mentale, etc., c'est de répondre à la question de qui fait l'homme, qui fait la femme. Alors que cette question, on ne doit pas y répondre. Parce que, évidemment, dans un couple, par définition, homo, il y a deux hommes ou deux femmes. Et que, du coup, la question, c'est pas de reproduire le même schéma où il y en a un des deux, ou une des deux, qui fait les tâches ménagères, qui s'occupe des gosses, etc. Et que, justement, la question de créer des nouvelles familles pour nous, c'était aussi créer de nouvelles. Qu'est-ce qu'il y a? Ça marche pas? Si, c'est bon. Okay. Des nouvelles structures de famille. Et avant de se poser la question théorique de cette articulation, justement, entre les questions homosexuelles et le nationalisme, il faut aussi que je décrive rapidement ce que c'est que le nationalisme, mais il me semble qu'ici, globalement, ça va. on est plutôt au point. C'est la question de la création d'un mythe national. En France, nos ancêtres, les Gaulois, etc., ce qui est évidemment ni vrai généalogiquement, ni vrai culturellement, ni socialement. Et donc l'homonationalisme, c'est l'idée d'intégrer les LGBTI dans ce mythe national. L'homonationalisme, vous ne le connaissez pas vraiment, et pourtant vous l'avez déjà entendu, par exemple, quand Marine Le Pen dit « il y a des quartiers où il ne fait pas bon être une femme ou un homosexuel ». C'est mieux ? Est-ce que vous m'entendez toujours ? Ouais. Donc, quand Marine Le Pen dit il y a des quartiers en France, il ne fait pas bon être une femme ou un homosexuel. Bon, évidemment, nous, militants LGBTI, anticapitalistes, antifascistes, ça nous fait bondir parce que le parti de Marine Le Pen a lutté tout le temps et depuis le début contre tous nos droits. Tous nos droits, c'est-à-dire que même la dépénalisation, ils étaient contre. Donc, il y a un moment où c'est particulier. Jean-Marie Le Pen, en 84, il qualifiait l'homosexualité d'anomalie biologique et sociale. En 1995, lors d'un discours aux universités d'été du Front National, il dit qu'il confesse qu'il doit y avoir des homosexuels au FN, mais pas de folles. Les folles, on les envoie se faire voir ailleurs. Donc vous voyez, il y a quand même derrière ça quelque chose de quelle masculinité on veut, et de dire quelle homosexualité on veut aussi, et de dire qu'il y a quand même toute une partie... De l'extrême droite qui peut se contenter d'une homosexualité qui en réalité ne ressemble pas à une homosexualité mais à une norme hétéro. Et ensuite, là, dans les dernières années, un peu post-Manif pour tous, il y a eu quand même toute une question pour l'extrême droite qui était d'arriver à lier à la fois l'homophobie traditionnelle de ce parti, les Jean-Marie Le Pen, etc., qui continuent à s'attaquer, par exemple, à Philippot en l'appelant Don Quichotte de la Jaqueta et autres joyeusetés homophobes. Et de l'autre, d'essayer d'esquisser une forme de dédiabolisation et d'essayer aussi de s'adresser aux LGBTI en leur disant votre pire ennemi, c'est les Noirs et les Arabes. C'est leur réponse à peu près tout. On le sait, que ce soit pour les femmes, que ce soit pour les salariés, que limite, quand on parlera d'écologie, quand ils parleront d'écologie, ce sera encore la faute des Noirs et des Arabes. Mais bon. Donc, Ensuite, pour continuer sur cette question, c'est un topo qui est pas, on n'est pas des universitaires, mais on est des militants. Donc la question, c'est pas juste de se poser sur des termes comme ça qui seraient évanescents, qui surplombent et qui nous servent juste à se faire plaisir, à se dire que le capitalisme, c'est de la merde. Mais ça, on le sait déjà. La question pour nous, ça va être de se donner des outils de lutte, d'utiliser ces recherches qui ont été produites par des universitaires et des chercheuses et qui nous permettent de comprendre les dynamiques en cours pour lutter contre la société patriarcale, capitaliste, homophobe, en d'autres mots, esquisser une société sans oppression et qui verra le jour que par là où les révolutions. L'autre aspect de ce pot, c'est aussi de lutter contre les pièges qui sont tendus à la fois au milieu LGBTI et au monde du travail, au monde ouvrier traditionnel. Pourquoi je dis ça ? Parce que dans la question de l'homonationalisme, il y a aussi la question de ce que je disais, de cette création de ce mythe national dans lequel, qui est créé aussi par des LGBT et aussi par des organisations de LGBT de droite, et que la question, c'est de dire, non, il n'y a pas d'un côté des sauvages qui seraient homophobes et de l'autre l'Occident qui croit, en fait. L'Occident qui croit. C'est-à-dire, ça voudrait dire que l'Occident est profondément pro-LGBT dans sa nature, en oubliant qu'on nous a laissé crever du sida, que bien avant, on a été dans des camps de concentration, et que quand on est sorti des camps de concentration, on était encore pénalisé. Donc le mythe de l'Occident protecteur, il tombe à plat. Et donc la question, c'est bien de se dire qu'en Orient comme en Occident, la question, c'est être les luttes, comme on le dit à chaque fois, il n'y a pas de mystère, mais seules les luttes paillent, et ce qui nous a amené à une situation où on a progressivement gagné des droits, des avancées, etc., c'est les luttes, c'est rien d'autre, et voilà, c'est un peu l'idée globale. Ensuite, il y a aussi une question donc internationale, et on ne peut pas parler de monationalisme sans parler de la question de la Palestine et de l'instrumentalisation de la question LGBTI par l'État d'Israël. Ce n'est pas juste pour, encore une fois, se faire plaisir et parce que l'actualité a été terrible pour les Palestiniennes et les Palestiniens cette année, mais c'est parce qu'il y a une entreprise de pinkwashing et de monationalisme de la part d'un État qui est organisé. C'est-à-dire, pour faire oublier la colonisation, on va essayer de créer justement ce mythe de l'îlot démocratique au milieu d'un océan de terreur. Et cette chose-là, c'est déjà nous, en tant que LGBT, on le voit. C'est-à-dire que ce n'est pas juste un truc dans les livres. C'est-à-dire qu'à toutes les prides à Paris, il y a des organisations sionistes qui viennent faire de la propagande, etc., des soirées à thème, etc. Pour donner un exemple qui est criant, c'est que Vincent Autain et Bruno Boileau, qui sont les patients zéro, les premiers mariés, les gens qui ont fait le premier mariage homosexuel en France, 8 jours après donc la proclamation de la loi Taubira, dès le lendemain de leur mariage, ils ont été appelés par Maria Marcus, qui est la conseillère presse du maire de Tel Aviv, elle a flairé le bon coup, et elle les a donc conviés pour leur lune de miel à Tel Aviv, en payant évidemment l'hôtel, l'avion, etc. Donc eux, bonne poire, ils se sont dit, bah oui, on est pour la visibilité, puis le reste, c'est un peu compliqué, on n'est pas là pour vraiment faire de la politique. Or, la politique est faite sur leur dos. Et c'est ça qu'il faut dire. Et donc, évidemment, finalement, ils n'ont pas été à l'hôtel parce que l'ambassadeur de France les a reçus dans sa résidence à Jaffa. Et ce moment-là s'est transformé quasiment en voyage officiel avec des sorties en boîte, des cocktails, des champagnes. Il y a eu la Pride 2 jours après. Et tout ça s'est transformé en outil de communication. Et on sait que c'est exactement ce que fait la mairie de Tel Aviv et l'État d'Israël plus largement. Également, on l'a vu avec la question de l'Eurovision, par exemple, où il y a eu du coup toute une bataille sur l'Eurovision qui se passait en Israël et de comment essayer de redonner par la culture, par le cinéma, par la musique, etc., une porte d'entrée pour imaginer un Israël tolérant, etc., etc. Pour continuer un peu sur l'international, il y a plusieurs aspects qui sont intéressants, notamment sur les liens avec la colonisation, plusieurs États, plusieurs pays dans lesquels on peut avoir une analyse particulière. C'est-à-dire, par exemple, en Ouganda, où il y a quelques années, dans les questions, en parlant des questions LGBT, on parlait souvent de l'Ouganda parce qu'ils avaient enlevé puis remis une loi homophobe pénalisant l'homosexualité de mort. Et cette loi, c'est la loi qui a été amenée par les colons anglais pendant la colonisation. Et c'est la même loi qui a pénalisé Oscar Wilde. Donc c'est une loi coloniale qui est appliquée encore aujourd'hui dans de nombreux États, dont l'Ouganda. Et du coup, ça pose quand même la question de supprimer ces lois homophobes comme une question décoloniale, plutôt que d'alimenter l'idée qu'il y aurait une colonisation occidentale qui veut imposer l'homosexualité partout, etc. C'est pas vrai. On le voit justement, cette loi en Ouganda, elle a été en partie menée avec non pas des missionnaires, mais des évangélistes américains qui, pour le coup, étaient profondément homophobes. Et si on doit chercher la colonisation quelque part, c'est de ce côté-là. Parce que, pareil, en Inde, la loi, c'est toujours la même, celle des Hawaii, là, des Anglais. En Inde, avant la colonisation, il existait des pratiques homosexuelles, des kamasutras homosexuels et des notions de genre qui diffèrent de celles de l'Occident aujourd'hui. Et que, voilà, encore une fois, c'est pour nous, c'est un acte de décolonisation que de revenir un peu à la diversité des orientations sexuelles et politiques. Et je pense que voilà, si je pourrais revenir un peu sur Gaza, je vais finir là-dessus. Mais il y a pareil entre, c'est pas les mêmes droits pour les LGBTI en Palestine, selon qu'on soit en Cisjordanie ou dans la bande de Gaza. Et pareil sur la Palestine mandataire, donc avec encore une fois aux surprises le mandat britannique, l'ordonnance du code criminel qui pénalisait criminaliser l'homosexualité de 10 ans de prison. Et à la fin du mandat britannique, la Cisjordanie a abandonné progressivement ses lois et toute référence à une interdiction de l'homosexualité. Donc on ne va pas se raconter d'histoire, ce n'est pas qu'il y a eu des luttes LGBTI qui ont gagné, c'est juste que l'État ne pense pas que c'est une priorité, ils ont juste dégagé le truc. Et ce que je veux dire, c'est que c'est pas qu'il n'y a pas d'homophobie en Palestine comme n'importe où. C'est-à-dire que l'homophobie, elle est partout dans toute la société et on le sait, mais la question, c'est celle d'une homophobie institutionnalisée, étatisée, marquée dans le marbre de la loi. Et je pense que je suis un peu long, donc je vais m'arrêter là avec une petite conclusion de ce parti. C'est de se dire. Je suis en train de chercher, je ne suis pas allé. Voilà, l'esprit du c'est compliqué, du ce soir j'oublie tout et de c'est pas le sujet. On est en train de parler des questions LGBTI, la question des Palestiniennes et des Palestiniens ne nous intéresse pas. L'insouciance de Tel Aviv entretient une légitimité d'un pays qui mène à une colonisation sans relâche et opprime le peuple palestinien de tous les côtés et de toutes les façons. D'une part ou l'autre du mur, on ne peut pas entretenir ce mythe colonial de l'État îlot dans un océan de réaction sans esquisser des liens de solidarité avec les Palestiniennes et les Palestiniens qui sont queer, LGBTI, etc., et qui existent et qui luttent et qui avancent. Parce que je pense qu'il y a aussi toute une question qu'on pourrait se poser peut-être dans le débat du mythe on soutient la Palestine comme un espèce de truc mythifié, etc., alors que c'est des vrais gens et ils sont tout aussi queer, LGBTI que nous.
Ouais, c'est bon, on entend ? Ok. Du coup, moi, je vais plutôt intervenir sur la partie pinkwashing. Hein, donc voilà, Tariq a traité de mon nationalisme. Je vais déjà commencer par définir un petit peu, tout simplement, ce qu'est le pinkwashing, qui est un terme qui est arrivé aux États-Unis dans les années 90 et qui se traduit en français littéralement par lavage rose, en fait. Qu'est-ce que c'est ? C'est une technique marketing qui vise à créer des campagnes de communication dans le but d'améliorer son image, alors pour le capitalisme, mais aussi pour la bourgeoisie. Le pinkwashing concerne des marques, des états, des branches d'activité, en fait tout organisme qui ressent à un moment donné le besoin de s'afficher comme progressiste et allié des LGBTI, et par ailleurs pas que des LGBTI, parce que ça s'applique également avec le féminisme aussi. Le terme pinkwashing, en fait, il vient du mot greenwashing, qui était déjà connu avant ça, qui est le même procédé en matière d'écologie, en fait, de la même manière que le capitalisme, ben, il tente de se montrer vert, il utilise les LGBTI pour faire croire à un capitalisme rose. Ça sert au capitalisme et à la bourgeoisie, je l'ai dit, à s'afficher comme des alliés des LGBTI, et ça, eh ben, nous, on n'est pas d'accord, bien sûr, spoiler alert, c'est un peu ce qu'on va voir, parce qu'on pense que eh ben, nos existences, elles ne sont pas compatibles avec ce système. On peut voir que le pinkwashing, il est de plus en plus présent, que ce soit en France ou à l'international, et il convainc beaucoup de LGBTI, parce qu'on a toute une partie des LGBTI qui cherchent à s'en sortir, en fait, dans cette société hétéronormative, qui leur offre peu de perspectives, et qui pensent que, ben, bon an, mal an, on peut peut-être améliorer deux, trois choses quand même sous ce système. L'hétéronormativité, bon, je vais utiliser un petit peu ce mot-là, Tariq l'a dit, voilà, c'est une contrainte à l'hétérosexualité, c'est un modèle qui incite à ça par des mécanismes rodés par sa structure sociale et qui se fondent en partie sur l'oppression du genre. Le pinkwashing, il est donc accepté par une partie des LGBTI, mais il est aussi vivement contesté, et ce, de plus en plus au fil des années, que ce soit en France ou à l'international, on va le voir un peu. Je vais aussi aborder la question d'Israël. Tariq l'a déjà fait un peu, mais en fait, bah, on ne peut tout simplement pas parler de pinkwashing sans parler de la question d'Israël et de la Palestine. Et que de toute façon, en fait, le pinkwashing, bah, c'est quelque chose qui est extrêmement lié, intrinsèquement lié à la question de l'homonationalisme. Voilà, donc on va parler un peu de ça. Donc le pinkwashing en Israël, il sert à détourner l'attention, en fait, de ces méthodes coloniales, des méthodes coloniales d'Israël. Ça permet à Israël de montrer en fait qu'il traite ben, finalement beaucoup mieux les LGBTI qu'en Palestine. Ça renforce, mais c'est dans la continuité de ce que disait Tariq, l'imaginaire d'un territoire arabe, barbare à l'égard des LGBTI, en opposition à un territoire occidentalisé qui serait en fait un Eldorado presque pour les LGBTI, ouvert et démocratique. Donc ça leur sert, en fait, le pinkwashing leur sert à donner une image ben, progressiste, positive, mais aussi à stigmatiser tous les pays autour d'eux dans le Moyen-Orient pour masquer ce qui est fait concernant l'occupation des territoires palestiniens. Donc Israël, il a commencé ce pinkwashing en 2009 dans le cadre d'une campagne de communication qui s'appelle Brand Israel, alors que son image a été au plus bas après une sanglante répression de la deuxième Intifada. Et suite à ce marketing bien ficelé, le nombre de touristes gays est passé de 7 000 touristes gays en 2012 à 35 000 en 2017, ce qui est énorme. Tout ce marketing, en fait, il est payé par la municipalité de Tel Aviv. Il y a des millions d'euros qui sont mis en place pour la marche des fiertés à Tel Aviv, autant en termes de prise en charge de l'événement que pour faire venir des touristes européens, et du coup, avec une alliance en fait entre la municipalité de Tel Aviv et des entreprises touristiques. On se rappelle même, comme je disais, que les premiers mariages gays, ben, en fait, ça a beaucoup servi. Les premiers mariages gays en France ont beaucoup servi en fait à populariser le pinkwashing d'Israël. Israël, il finance aussi, donc il est aussi présent sur le marché de la culture, il finance des films pro-israéliens dans des festivals de films LGBTI aux États-Unis, mais pas que. Il y a un festival de films LGBTI qui a aussi lieu chaque année à Tel Aviv, qui est financé aussi par des fonds publics, notamment de la municipalité. C'est le même procédé en fait contre les droits des femmes, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais en 2018, l'Eurovision a été gagnée par une Israélienne qui était en fait une ex-soldate volontaire, hein, donc on imagine bien le beau travail qu'elle a fait concernant nos sœurs et frères palestiniens, palestiniennes. Et en fait, elle a gagné l'Eurovision sur une chanson contre le harcèlement sexuel. Donc en fait, c'est un peu marrant quand en fait, on sait vraiment ce que subissent les femmes palestiniennes en termes de violence par l'armée israélienne. Bah, en fait, la réalité, c'est que derrière tout ça, ça cache que Israël bah, est loin d'être gay-friendly. L'armée, elle exerce du chantage contre les LGBTI palestiniens en les menaçant de les outer s'ils ne collaborent pas. On a beaucoup de en fait, LGBTI palestiniens qui sont mis sur écoute. Et quand Israël en fait, se rend compte que bah, c'est probablement des personnes LGBTI, bah, Israël bah, profite de ça pour les faire chanter, les obliger à collaborer comme informateurs. Et en fait, c'est d'autant plus vicieux ce procédé parce qu'il y a deux choses qui en découlent. C'est que les personnes LGBTI, elles sont suspectées en fait, d'être des collabos par en fait, leur entourage en Palestine. Et par ailleurs, l'asile en Israël, il est accepté pour les Palestiniens que pour homosexualité. En fait. C'est-à-dire que les Palestiniens n'ont pas le droit d'asile en Israël, sauf sur la question de l'homosexualité, ce qui est une façon de justifier l'oppression coloniale d'Israël en disant, bah voilà, regardez, en fait, nous, on accueille les Palestiniens homosexuels qui se font vraiment opprimer sur leur territoire. Par ailleurs, dans la société, il y a un vrai souci de vision de ce que c'est qu'être LGBTI, parce qu'aujourd'hui encore, on a 47% des Israéliens, selon les derniers sondages, qui considèrent que l'homosexualité est une maladie. Le mariage gay, il est interdit. Les LGBTI, ils n'ont pas le droit d'adopter des enfants. Et en fait, il n'y a aucune loi qui a été faite sur les LGBTI en Israël dans les 10 dernières années. Donc, finalement, derrière le pinkwashing de façade, on voit bien que finalement, il n'y a pas vraiment de droits qui sont mis en place. Et c'est ça qui joue dans le pinkwashing, c'est-à-dire que la stratégie, elle est purement marketing, alors que dans les faits, l'égalité de droit, elle est très très loin, et surtout, elle vise à faire oublier une politique répressive, oppressive et coloniale. Mais tout ça n'est pas déprimant non plus, puisqu'il y a des résistances qui ont été faites ces dernières années contre le pinkwashing israélien et en solidarité avec la Palestine. En fait, concernant le festival de films dont je vous parlais juste avant, notamment grâce à BDS, les dernières éditions, elles ont été très boycottées par les artistes invités, et ça a vraiment fait polémique en fait à l'international. Pareil sur les marches des fiertés, on a pu voir ces dernières années que les marches des fiertés à Tel Aviv, qui réunissent quand même beaucoup de monde, c'est-à-dire que chaque année c'est quand même 250 000 personnes, et ben il y a aussi des contestations qui ont eu lieu et des personnes qui ont bloqué, qui ont manifesté à l'intérieur même de cette marche pour en fait dénoncer le sort qui est réservé aux LGBTI palestiniens par les colons israéliens. En France aussi, on a du pinkwashing, on a vu les gens d'Israël qui est marquant, voilà, je ne vais pas m'étaler plus dessus, mais en France aussi, le pinkwashing, il est à l'œuvre de plus en plus ces dernières années. On a la mairie de Paris qui s'affiche comme gay friendly hein, de plus en plus. Donc voilà, Paris est la ville des LGBTI, paraît-il. Alors moi, je suis de région parisienne et je n'ai pas trop l'impression que ce soit le cas, mais soit. Puisque, en fait, pourquoi la mairie de Paris est connue ? Parce qu'en fait, elle affiche des couleurs arc-en-ciel dans la ville. Je ne sais pas si vous avez vu les super passages piétons. Vraiment, ça change nos conditions d'existence. Enfin, vraiment, c'est assez incroyable. Mais aussi en soutenant, en fait, elle a fait ça juste avant la campagne municipale, juste avant la dernière campagne municipale. Elle a soutenu financièrement des associations LGBTI. Donc, bon, en plus, sur un axe électoraliste, puisqu'elle avait quand même 6 ans pour le faire, elle a décidé de le faire juste avant sa réélection. Et dans le même temps, en fait, elle vire des migrants LGBTI tous les jours, qui ont fui leur pays, qui sont menacés de mort pour leur orientation sexuelle ou pour leur revendication et ou pour leur identité de genre. Mais bon, c'est pas grave, c'est quand même la capitale des droits LGBTI. Donc ça, voilà, on voit très bien, c'est encore une stratégie marketing qui a des répercussions économiques, bien sûr. Et en fait, le mouvement LGBTI, il a de réelles revendications, en fait, et c'est ça qu'il faut discuter, qui ne correspond pas du tout à ce que voudrait faire croire la mairie de Paris ou le gouvernement. Pareil, voilà, du côté du gouvernement, en fait, c'est le même procédé quand on a vu que Philly Smile, qui est un DJ gay et noir, il a été mixé à l'Élysée. Quand Marlène Schiappa a été à San Francisco pour Marlène Schiappa. J'essaie de rester concentrée, mais c'est vrai que voilà, Marlène Schiappa qui va à San Francisco en 2018 pour participer à la Pride, l'Assemblée nationale qui affiche un drapeau LGBTI, enfin un drapeau rainbow arc-en-ciel devant sur sa façade, alors qu'en fait en même temps elle vote des lois antisociales et criminelles comme la loi asile et immigration qui accélère les procédures d'expulsion pour les migrants, dont des LGBTI qui risquent la mort dans leur pays, qui sont envoyés en toute connaissance de cause de ce qu'ils risquent dans leur pays. Voilà. Et la dernière grosse campagne, alors que ça a fait polémique, je pense que vous en avez entendu parler, la dernière grosse campagne de lutte contre les LGBTI-phobies, elle a fait polémique, quoi. C'était à coup de ma coloc lesbienne, une fille, c'est gay. Et en fait, le gouvernement il s'est clairement ridiculisé, ça a fait une grosse polémique, et même au-delà des milieux LGBTI, en fait, les autres se sont bien rendus compte que ça n'avait vraiment pas de sens, et que par ailleurs, pendant qu'ils mettent beaucoup d'argent dans ce genre de campagne inutile, la PMA, en fait, on l'attendait toujours, quoi. Voilà, donc ça c'était plus la partie sur à la fois l'État d'Israël et l'État français, mais du côté des entreprises, c'est pas mieux et ça va de pair puisque en fait l'État utilise énormément les entreprises pour continuer son pinkwashing. Donc en fait les entreprises ces dernières années elles ont bien vu qu'il y avait un vrai marché qui existait du côté des LGBTI qui est intéressant en termes de profit. Donc on a plein de secteurs dans lesquels ça se passe, que ce soit les bars, les soirées, les sites de rencontres, le cinéma, Voilà, en fait, il y a un vrai marché qui s'agrandit. Donc il y a à la fois cet élément-là, c'est-à-dire qu'il y a un vrai marché pour les capitalistes qui s'agrandit là-dessus, on va voir un peu des exemples concrets, et en même temps, ça permet aux LGBTI d'acquérir une grande visibilité. Et ça va être aussi un petit peu ça la discussion qu'on a envie d'avoir aujourd'hui, c'est un peu qu'est-ce qu'on répond aux LGBTI qui se disent « ouais, bah, super en fait qu'on ait des places, qu'on ait une place plus importante dans les campagnes de pub par exemple, parce que ça accroît notre visibilité. Qu'est-ce que nous, en tant que capitalistes, en tant que révolutionnaires, on a à porter là-dessus, ça va être un peu aussi l'enjeu. » Donc ces boîtes, elles brassent énormément de profits, enfin des profits vraiment assez incroyables là-dessus. Bon, on se doute bien qu'ils ne font pas ça pour faire avancer les droits des LGBTI, mais pour se faire des bénéfices sur leur dos. Et ça aussi, c'est une pratique de pinkwashing, puisque quand ils voient que leurs clients sont sensibles aux valeurs progressistes, ils commercialisent toutes sortes de produits qui va leur amener beaucoup de profits. Voilà, et du coup chaque année on voit ça, je ne sais pas si vous connaissez la date du 17 mai qui est une journée internationale de lutte contre les LGBTI, et en fait à cette date là il y a de plus en plus contre les LGBTI, il faut dire il est tôt hein. Donc chaque année c'est le 17 mai, c'est la journée de lutte contre les LGBTI-phobies, et de plus en plus d'entreprises se donnent le droit de capitaliser sur les LGBTI. Là, dernièrement, on a vu Air France qui a fait une énorme campagne en colorant de manière arc-en-ciel un de ses avions, voilà, et en prenant des photos avec ses salariés qui sont en fait qui ont des conditions de travail extrêmement agréables pour se construire une image progressiste en fait. Si Air France et si LGBTI-phobie, bon, bah, en fait effectivement, c'est qu'elle ne doit pas vraiment exploiter ses salariés, et c'est aussi ça que ça renvoie derrière. C'est que, voilà. Et en fait, ça marche ce truc-là, parce que selon une enquête qui a été réalisée en 2017 aux États-Unis, donc une enquête très récente, en fait, il y a 64% de personnes qui se présentent comme alliées de la cause LGBTI qui sont susceptibles de consommer davantage de marques présentées comme gay friendly. Donc, effectivement, c'est quelque chose qui est plutôt réussi. Du côté de la culture, pareil, dans les films, on a un pinkwashing qui est de plus en plus présent. Alors jusqu'ici, les LGBTI étaient tout le temps représentés à la marge, ils avaient tout le temps des seconds rôles, y compris représentés de manière extrêmement dramatique. Enfin voilà, c'était toujours un personnage qui a une merde et qui crève au bout de 10 minutes de film, quoi. Et en fait, là, bah, ça change un petit peu, notamment Netflix, on a vu, maintenant, il y a carrément des nouvelles rubriques sur beaucoup de plateformes de films et séries en ligne, il y a des rubriques spéciales LGBTI, etc. Et il y a de plus en plus de films qui mettent en avant des LGBT rôles principaux qui sont moins relégués au second plan, mais c'est pas pour autant qu'ils sont représentés comme ils existent réellement, en fait. Parce qu'en général, les réalisateurs de ces films, c'est des hommes blancs hétéros qui ne comprennent pas du tout la réalité de nos vies. Et l'idée derrière aussi, c'est de ranger les LGBTI dans des cases hétéronormatives. C'est-à-dire qu'on va les représenter dans des schémas familiaux très traditionnels, parce que le capitalisme, il a besoin aussi d'enfermer les LGBTI dans ces schémas pour maintenir un modèle de société qui lui génère encore plus de profits. Les applications de rencontres aussi, je ne vais pas détailler, mais voilà, on a vu Tinder, il n'y a pas si longtemps que ça, en fait, fini par rouvrir son application de rencontres entre personnes de même genre, parce que ça leur apporte énormément de profit aussi. Dans le textile, on a de plus en plus de marques qui capitalisent sur le rapport potentiel. L'industrie du maquillage, c'est pareil, elle s'est aussi appropriée ses luttes. Il y a de plus en plus de campagnes de pub qui montrent des personnes LGBTI. Et ces entreprises-là, elles capitalisent sur l'idée que leurs produits n'ont pas de genre, etc. On peut voir ça comme une avancée, d'un côté, c'est un petit peu ce que je disais tout à l'heure, parce que ça accroît la visibilité de nos communautés et que ça participe de la diffusion d'idées de genre comme construction sociale. Mais en fait, ces entreprises, elles n'ont juste pas intérêt à la libération des LGBTI, en fait, c'est évident. Mais beaucoup plus loin que ça, ça contribue aussi à l'individualisation des oppressions et ça va être aussi un petit peu le débat. Un dernier exemple, celui de Facebook. Voilà, on a un camarade qui a beaucoup travaillé là-dessus et qui a été d'une grande aide pour ça. Voilà, chaque année, vous avez eu quelques nouvelles fonctionnalités. Voilà, tu peux liker avec un drapeau LGBTI, t'as des hashtags colorés en français, etc. Effectivement, c'est une technique aussi de marketing qui vise à se montrer comme progressiste. Alors qu'en fait, derrière, ça cache, je ne vais pas forcément développer là-dessus, parce que je vais parler déjà beaucoup, mais ça vise en fait aussi à traquer la LGBTI pour en fait faire des campagnes de pub ciblées, puisque en fonction, il y a tout un truc avec les algorithmes qui du coup permet en fait à ces entreprises de savoir si c'est LGBTI ou pas. Mais en fait, Enfin, voilà, la discussion qu'on a aussi envie d'avoir aujourd'hui, c'est qu'il y a vraiment une frange d'LGBT qui sont convaincus par ce truc-là, quoi. Un peu, qu'est-ce qu'on leur répond? Parce que ces initiatives, en fait, elles n'améliorent pas. Enfin, là, on l'a vu avec des exemples, c'est-à-dire qu'un passage piéton arc-en-ciel, moi, personnellement, ça n'améliore pas mes conditions d'existence matérielles, quoi. Et en fait, les LGBTI sont extrêmement précarisés, d'autant plus, on l'a vu ces derniers temps avec la crise sanitaire. Et les LGBTI sont majoritairement issus de la classe ouvrière, alors ça c'est quelque chose qu'on doit assumer, et donc on va voir un petit peu en fait qu'est-ce que ça veut dire d'être LGBTI aussi sur le monde du travail, pour voir un peu si ces entreprises elles sont réellement si LGBT friendly que ça, puisque voilà, dans les entreprises bah, en fait il y a beaucoup d'entreprises qui aiment avoir leur caution LGBTI, alors que en fait dans la pratique, même si elles se vantent de ça, voilà, d'intégrer de plus en plus, peut-être, d'agir, etc. Ben non, en fait, ces personnes-là sont reléguées au second plan et sont opprimées sur leur lieu de travail. Il y a des chiffres qui nous montrent, donc on a beaucoup de chiffres, notamment de SOS Homophobie. On a beaucoup de chiffres qui nous montrent que derrière ces campagnes publicitaires faussement gay friendly, les entreprises sont loin d'être obligées, parce qu'en 2017, il y a près de 2 millions de personnes, ce qui est énorme, 2 millions de personnes qui cachaient leur orientation sexuelle au travail de peur des répercussions. Pareil, si on en prend le dernier rapport, dont les chiffres sont toujours sous-estimés par rapport à la réalité, et, enfin, d'autant plus en période Covid, il y a 9% des LGBT qui sont discriminés au travail du fait de leur orientation sexuelle, et pour 37% des cas, c'est le fait de leur supérieur hiérarchique. Alors ouais, bon, on est d'accord, il ne faut pas idéaliser notre camp social, on ne peut pas faire croire que les oppressions LGBTI-phobes n'existeraient pas au sein de notre camp social, mais il ne faut pas non plus, et c'est un peu aussi ce que tu disais, il ne faut pas non plus tomber dans le piège qui consisterait à penser que notre classe elle est intrinsèquement, foncièrement LGBTI-phobe, raciste, sexiste, parce que ce n'est pas le cas. En fait, la classe ouvrière, aujourd'hui, elle n'est pas pétrie d'idées réactionnaires, ça, on l'affirme clairement. Alors oui, elle peut avoir des relents homophobes, ça, on ne se le cache pas, y compris, en fait, on doit en discuter au sein de notre camp social, mais ce n'est pas une fatalité. Et qu'est-ce qui nous permet d'aller au-delà de ça? Bah, c'est la lutte, en fait, parce que la classe dominante, elle essaye de diviser la classe ouvrière sur ces questions-là. Lors de la dernière mobilisation contre la réforme des retraites, je ne sais pas si vous avez vu, mais... Il y a la direction de la SNCF qui avait tenté de faire justement, de diviser en fait les grévistes en sanctionnant des grévistes qui avaient eu des propos homophobes. Donc voilà, ça on peut condamner en fait que des grévistes aient des propos homophobes, mais en fait c'est à nous d'en discuter dans nos propres cadres d'auto-organisation. Et en tant que LGBTI, bah, nous en fait on doit lutter contre l'instrumentalisation de nos oppressions, parce que ces oppressions-là en fait elles sont à l'origine quand même du patronat et des capitalistes, quoi. Et du coup, un peu la discussion, c'est aussi, voilà, comment on fait. Il y a notamment les marches des fiertés, qui sont un grand moment de politisation et dans lesquels on intervient chaque année. Et du coup, où est-ce qu'on en est par rapport à ça, en fait, dans cette perspective-là, de dire, ouais, on doit lutter avec notre camp social. Donc, les marches de fierté, on le voit, sont de plus en plus marchandisées, alors qu'à l'origine, elles sont quand même issues des émeutes de Stonewall aux États-Unis en 69, qui ont été menées par des personnes gays, trans, incisées, précarisées. Et aujourd'hui, bah, les marches de fierté, elles sont un petit peu loin de cet héritage. Elles sont teintées de pinkwashing, il y a de plus en plus d'entreprises qui participent. Aux États-Unis, c'est à l'œuvre depuis longtemps. En France, ça croît beaucoup. Et en fait, bah, ça tend à intégrer une dimension capitaliste à nos luttes et de faire croire que, en fait, voilà, on pourrait changer finalement la vie matérielle des LGBTI en s'alliant à tout un tas de capitalistes qui finalement seraient un petit peu voilà, prêts à faire des pas en avant. Et du coup, bon, je vais prendre ce que je connais le mieux, mais après on pourra discuter en débat d'autres exemples, mais ce que je connais le mieux, c'est l'exemple parisien, du coup, où chaque année on a des boîtes comme Mastercard, Tinder et compagnie, et on a aussi bien sûr le FLAG, qui est l'association public LGBTI, on a des sionistes qui sont présents, des LGBTI, c'est des associations de LGBTI sionistes qui sont présents chaque année. Ça, c'est bien sûr un problème pour nous, mais on mène des bagarres à l'intérieur de ça, notamment vis-à-vis de l'inter-LGBT, qui est en fait l'inter-collectif, l'inter-association qui organise chaque année la marche des fiertés dans laquelle nous, en tant que PA et commission LGBT, on n'intervient pas à l'intérieur de ça, mais on en parlant de solidarité. Par rapport à ça, en essayant de montrer qu'en fait on peut faire d'autres choses et que ça marche et que beaucoup sont attirés par d'autres perspectives aussi. Et en fait, voilà, il y a un vrai problème parce qu'il y a des associations comme ACT UP qui sont en fait en dernier rang de démarches LGBTI, alors que en fait c'est des associations historiques qui ont lutté réellement pour les droits des LGBTI. Mais du coup, dans ça, nous, on essaie de proposer des initiatives, ou en tout cas de suivre des initiatives qui sont menées par d'autres camarades d'autres courants de notre plan social. Et on a vu depuis 2016 une accumulation d'expérience sur cette question-là. En 2016, on avait impulsé avec d'autres organisations un pôle radical. Donc voilà, on était en pleine bataille des retraites, etc. Et on s'est dit, bah, en fait, il faut absolument qu'on fasse quelque chose de ça. Et du coup, voilà, ça a offert à la Pride un espace revendicatif, un espace beaucoup plus radical, beaucoup plus politique. Et en fait, on a des secteurs du mouvement ouvrier qui sont venus. On avait notamment des postiers, des cheminots qui ont participé à cette Pride. Ça a ramené un peu de monde. En tout cas, ça a participé en fait, de dire, bah, en fait, c'est peut-être un peu tous ensemble qu'on va gagner des droits LGBTI, quoi, et pas juste tout seul dans notre coin aux côtés de la sorcière, quoi. Donc ça, c'était une expérience hyper importante pour nous, qui nous a donné envie de continuer. En 2018, il y a eu un cortège de tête qui a été initié et qui a réuni 10 000 personnes, ce qui n'est pas négligeable, dans lequel aussi on a intervenu avec des cortèges NPA aux côtés de travailleurs et de travailleuses en lutte aussi. Il y a aussi un char d'Air France qui avait été bloqué, etc., dans la perspective un peu de montrer qu'on s'opposait à l'homonationalisme et au pinkwashing. Pareil l'année dernière, en pleine crise sanitaire en 2020, l'inter-LGBT, le fameux inter-collectif qui organise chaque année la Pride, avait décidé d'annuler la marche des fiertés. Voilà, finalement, il y a tout un tas d'organisations qui se sont dit, ben non, on va quand même faire une marche des fiertés, et une marche des fiertés qui nous ressemble, en fait, avec des vraies revendications, avec des slogans, voilà, qui, en fait, posent la question de comment on va réussir à obtenir des droits, et notamment sur la question de la PMA, qui était d'actualité, quoi. Voilà, donc ça, ça a été important et ça a permis d'avoir un peu une politique unitaire autour de ça. Et cette année, il y a eu un petit basculement. Alors voilà, c'est pas gagné, on verra ce que ça donne aussi, y compris l'année prochaine. Mais cette année, il n'y avait pas de car marchand. Voilà, l'inter-LGBT n'a pas invité de car marchand, de char marchand. Le flag a décidé de pas venir parce que, attention, la marche des fiertés partait de Pantin dans le 93. Donc en fait, ils n'avaient pas envie de rajouter de travail à leurs amis policiers. Hein. Voilà, donc nous on a mené un pôle de lutte à l'intérieur de ce truc-là. On a monté avec la commission LGBTI un cadre unitaire avec des associations comme ACT UP, comme Acceptes Transgenre, comme FIER, et en fait ça a rassemblé des milliers de personnes. Ça a été une vraie réussite pour nous, avec des revendications claires sur la question de la PMA qu'on disait tous, sur la question des thérapies de conversion, et qui montrait en fait qu'on avait peut-être intérêt à se bagarrer tous ensemble avec des vrais mots d'ordre anti-capitalistes. Et ce discours politique, il a été très bien perçu. Et on peut voir que ces dernières années, il y a une nouvelle génération de militants qui se construit sur ces questions-là. Et justement, ça va être ça aussi la discussion de comment nous, on intervient là-dedans. Comment, en fait, on essaye de capter ces jeunes qui se politisent pour proposer une réorientation lutte de classe là-dedans. Et ça, on doit le faire au quotidien, en fait, autour de nous, dans nos milieux LGBTI. Il faut qu'on convainque, en fait, nos milieux qu'on n'arrivera pas à lutter contre nos oppressions en faisant des concessions aux capitalistes, en jouant le jeu du pinkwashing ou de l'homonationalisme. Et ça, ben, c'est pas gagné, parce qu'il y a beaucoup d'LGBTI qui pensent vraiment qu'ils peuvent peut-être améliorer un petit peu leurs conditions d'existence sous ce système. Et nous, en tant que matérialistes, on pense que c'est impossible, parce que les oppressions, elles sont structurelles, elles sont impériales au capitalisme, et qu'il faudrait complètement changer de structure pour y arriver, parce qu'on ne sortira pas de notre rapport d'oppression comme ça. Oui, on revendique des mesures concrètes, on a des revendications immédiates, parce que ça peut avancer les choses, et parce qu'on a besoin aussi, mais on ne pense pas qu'au final, on pourrait vivre de manière sereine et de se débarrasser de nos oppressions dans ce système. Donc ça doit se poursuivre au quotidien, sur nos lieux de travail, sur nos lieux d'études, parce que on doit mener au quotidien dans nos bagarres, dans la vie des classes. En fait, on doit aussi intégrer les questions d'oppression spécifique. Ça, c'est essentiel pour nous. Donc nous, on va continuer un petit peu le travail qu'on a mené cette année avec la commission, hein, qui s'est relancée cette année. Donc, le travail commence tout juste. Mais du coup, en tout cas, on a vraiment envie de capter l'ensemble des LGBTI là-dessus, parce qu'il y a une actualité. On a vu la marche lesbienne qui était inédite à Paris, c'était 10 000 personnes. Et en plein Covid. Donc on voit qu'il y a vraiment une disponibilité à la lutte de la part de ce milieu et qu'il faut intervenir. Bon, je vais conclure parce que je ne sais pas combien de temps j'en suis. Mais je vais m'arrêter. Voilà. Mais voilà, du coup, je vais essayer un petit peu d'apporter des perspectives, en même temps de poser des questions au débat, parce que l'idée, c'est aussi de discuter entre nous de perspectives aussi. Voilà. Donc, pour lancer le débat un petit peu, comme l'a dit Tariq, un peu pour revenir, sur ce qu'a dit Tariq, tout par rapport à l'homonationalisme, sur le sujet de l'homonationalisme, en fait, on a des exemples aujourd'hui à l'international de comment les droits des LGBTI sont bafoués d'une extrême violence par l'extrême droite. On l'a vu aux États-Unis, on l'a vu au Brésil, on l'a vu en Hongrie, où à la fois l'État lance des offensives réactionnaires et à la fois il y a des agressions LGBTI-phobes qui augmentent significativement. On assiste bien sûr ces derniers temps à une montée de l'extrême droite. Nous, on ne pense pas que les LGBTI sont spécialement d'extrême droite, mais que bien sûr, il y a le discours du RN qui gagne du terrain auprès de cette communauté, comme dans le reste de notre classe. Parce que ça tendrait à faire croire que les LGBTI-phobies, c'est l'apanage des quartiers populaires, c'est l'apanage des personnes racisées. Et ça, nous, on n'est pas du tout d'accord avec ça, bien sûr, on s'en doute, je sais pas. Mais voilà, en fait, on a vu, je veux dire, la manif pour tous, moi, j'ai pas vu les quartiers populaires de la manif pour tous. Dans la manif pour tous, j'ai vu une bande d'hétéros blancs bourgeois qui ont dans l'intérêt de maintenir ce système et de lutter contre nos droits au quotidien. Donc, ça, on doit refuser ça, l'instrumentalisation de lutte à toute fin raciste. On doit lutter, bien sûr, contre l'impérialisme, qui tendrait finalement à faire croire que dans les pays occidentaux, les LGBTI vivent convenablement, en opposition aux pays d'Afrique et du Moyen-Orient qui seraient arriérés. Faut pas oublier, en fait, comme l'a dit Tariq, que partout où la colonisation a intervenu, c'est là que les droits des LGBTI ont régressé de manière significative. Et là, ce qui se passe en Afghanistan en ce moment, ça nous montre ça, en fait. Il y a les mêmes qui se prétendent défenseurs de la cause LGBTI, ils n'hésitent pas à brandir la menace de la fermeture des frontières pour du sécuritarisme, alors qu'on a des LGBTI qui sont réellement, qui sont en danger en ce moment. Je lisais ça hier, c'est pas très drôle, mais ça m'a fait un petit peu rire, quoi. Il y a le rédac-chef du Figaro qui est intervenu sur BFM TV, je crois que c'est sur BFM, bon, bref, en parlant de l'Afghanistan, et qui disait que sur la situation d'Afghanistan, c'est marrant, on verra pas les néo-féministes, alors ils l'appellent les néo-féministes intersectionnelles, j'ai pas très bien compris quelles elles. Donc les néo-féministes intersectionnelles, là, ne seraient pas dans la rue concernant la question de l'Afghanistan, alors que vraiment, nous, on est super en avance sur les questions féminisme et sur les droits LGBTI, alors que en fait, dans ces pays-là, ils sont vachement en recul, ils sont vachement arriérés, et que les intersectionnelles, elles ne sont pas là pour défendre ça. En fait, si, nous, on va manifester, ça c'est sûr, mais pour l'ouverture des frontières, en fait, on va manifester pour ça, pour l'accueil de toutes celles et ceux qui tentent de fuir ça, et contre l'impérialisme, parce qu'il ne faut pas oublier que, en fait, notamment la France et les États-Unis sont responsables de l'arrivée des talibans au pouvoir. Donc on va manifester, mais justement pour défendre nos frères et sœurs du peuple afghan. C'est une chose. Et de manière générale, le capitalisme, on le sait, il a peur d'une chose, et particulièrement à la période où il y a des initiatives qui sont un petit peu, il a peur de la convergence des luttes, en fait. Et donc ça doit être notre perspective. Il faut qu'on travaille à l'unité de notre classe sur ces questions-là. Il faut qu'on participe en tant que LGBTI aux mobilisations de notre camp social. On a des exemples. Alors, on va ressortir l'exemple historique que vous connaissez sûrement, on s'en lasse pas. La lutte des LGSM, c'était ça. C'est un peu notre héritage quand même. Que des mineurs en grève sous Thatcher, se font soutenir par des LGBTI et que finalement, au début, ils étaient un petit peu réticents à ça parce que, comme je disais, il y a des relents aussi LGBTI-phobes dans notre classe, mais que par la lutte, finalement, ils se rendent compte qu'ils ont des intérêts communs et que du coup, ils ont lié leur bataille. Ils ont fait, les camarades LGBTI ont fait des concerts de solidarité pour financer les caisses de grève des mineurs grévistes. Et vice-versa, les mineurs sont venus à la marche des fiertés en 85 avec des grosses délégations et tout pour soutenir mutuellement. Ça c'est un exemple qu'on adore, mais c'est juste révélateur de ce qu'on a à faire un peu et de nos tâches en tant que révolutionnaires. C'est travailler à cette unité-là, parce que on n'est pas, et ça on insiste là-dessus, on n'est pas d'un côté LGBTI et de l'autre prolo. On est les deux. Et on doit faire des expériences communes pour travailler ensemble, se convaincre et voir, en fait, bien sûr, en fait, ça va dans les deux sens, quoi. C'est-à-dire qu'il faut faire des pas dans les deux sens. Le mouvement ouvrier, il doit prendre en charge ces questions-là. Et ça, on va essayer de faire ça, en fait, partout où on est implanté, que ce soit de manière syndicale ou politique. Mais pour ça, il faut aller plus loin, mais beaucoup plus loin, qu'une vision individuelle de nos oppressions. Et en ce moment, on a un courant qui avance là-dessus, en fait. Et ça, pour nous, en tant que communistes révolutionnaires, c'est un recul. C'est-à-dire que la politique des identités individuelles ne fera pas gagner les LGBTI. Cette politique de déconstruction comme un idéal du fait que, en fait, finalement, sous ce système, on pourrait complètement comprendre les oppressions et s'en défaire, eh bien, on doit lutter contre ça. Et c'est extrêmement important parce que nous, on réfléchit en termes d'oppression matérielle. On réfléchit en termes de à quel point, en fait, on a un accès inégal à des ressources, on a un accès inégal à l'emploi, on a un accès inégal au logement. Qu'il faut comprendre. Bien sûr, à terme, on est pour abolir le genre, qui est une construction sociale, mais ça se fera pas par une déconstruction individuelle. Ça se fera par une vraie lutte d'ensemble et en fait une révolution. Voilà. Dernier point avant de lancer quelques petites questions, c'est aussi la question internationalisme. On a essayé un petit peu de faire des points avec des camarades aussi, avec la commission, avec des camarades à l'international. Ça, on va le poursuivre, mais voilà, il faut qu'on essaye de voir comment on peut arriver à l'international à mener des campagnes communes. Alors oui, on a des rythmes différents en fonction des pays dans lesquels on est implanté, mais il faut quand même qu'on essaye de réfléchir à comment on pourrait avoir des campagnes communes pour lutter contre toute forme de pinkwashing et de récupération de nos luttes. Et ça, voilà, il faut qu'on essaye de pérenniser un petit peu des cadres de campagnes communes internationalistes. Nous, ce qu'on pense, c'est qu'il faut mettre en exergue les contradictions du système capitaliste pour faire avancer le niveau de conscience et pour montrer qu'en fait, seul le renversement du système pourra mener au renversement de nos oppressions dans le même sens que ce qui a commencé à être fait en 1917, qui est quand même notre héritage. Voilà, donc on a esquissé un peu, j'ai parlé un peu longtemps, désolée, on a esquissé un peu les grandes lignes, la réalité de l'homonationalisme et du pinkwashing aujourd'hui. Et du coup, je vais poser quelques questions pour lancer un petit peu le débat. D'abord, c'est, comme je disais, comment on construit des liens à l'international qui permettent de faire avancer une lutte d'ensemble malgré des rythmes différents. La deuxième question, c'est comment on essaye de redonner, partout où on est, un caractère de lutte des classes et un aspect combatif un peu aux marges des fiertés. On a essayé de faire ça cette année, mais ça poursuit, il faut un peu réfléchir comment on fait ça. Comment on va construire un mouvement d'ensemble pour arracher des droits, parce qu'on en a besoin d'arracher des droits en ce moment, et radicaliser notre camp social sur ces questions. Et dernière chose, comment on arrive un peu à regrouper les colères qui existent, en fait, les LGBTI et notre camp social sont quand même en colère en ce moment, ça on le voit un petit peu partout où on est, et du coup comment on arrive à faire converger là-dessus pour s'unir contre les politiques réactionnaires qui tentent d'instrumentaliser nos existences. Et ça, en tant que communiste révolutionnaire, bien sûr, on s'y oppose, mais du coup voilà, je propose de discuter un petit peu comment dans la pratique on arrive à faire avancer ça et à mener ce travail-là, à faire avancer le niveau de conscience, mais aussi à gagner des choses, parce qu'on a besoin de gagner des choses. Merci. Thank you.